dans ma tête, j'avais tout fait comme il fallait. J'allais aux rendez-vous médicaux, je faisais les examens qu'il fallait, je prenais les médicaments comme il fallait. Et donc, pour moi, c'était pas logique, injuste que ça revienne avant les 5 ans de traitements hormonaux obligatoires.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirs London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Depuis quelques années, les oncologues constatent une importante hausse des cancers chez les moins de 50 ans. Une augmentation de près de 80% à l'échelle mondiale en moins de 20 ans, comme l'atteste une étude publiée récemment dans la revue BMJ Oncology. Les causes seraient multifactorielles, sédentarité, hormones, pollution, alimentation. Danae, elle, n'est pas une statistique. Le cancer a fait irruption dans sa vie à l'âge de 23 ans, alors qu'elle venait de finir ses études d'enseignante. Depuis 7 ans, elle vit avec cette maladie qui a déjà récidivé plusieurs fois.
En 2017, j'ai senti une douleur au niveau du sein en mettant un soutien-gorge. Et puis, avec le toucher, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite masse. J'ai demandé conseil à ma maman, parce que j'avais 23 ans, qui m'a dit d'appeler le gynécologue parce qu'on ne pouvait pas savoir concrètement ce que c'était. J'ai téléphoné le lendemain en expliquant que cette petite masse me faisait mal. Et on m'a fixé un rendez-vous 3 semaines plus tard en me disant que c'était sûrement rien de bien grave. Donc, j'ai patienté sans trop m'inquiéter. Quand j'ai eu le rendez-vous, il m'a confirmé qu'il y avait une masse et puis il m'a dit qu'il fallait faire d'autres examens, peut-être une ponction, peut-être une échographie. Et puis bah là, on était le 19 décembre. Donc quand j'ai téléphoné pour les examens médicaux, on m'a répondu « Vous êtes la veille de Noël, on n'a pas de place avant le 8 janvier ». Pour moi, ce n'était pas problématique. Si on me demandait d'attendre, j'attendais. Finalement, ils m'ont trouvé une place le lendemain. Donc, je suis allée le 20 ou le 21 décembre faire des premiers examens dans un déni complet. J'ai appelé mon travail en disant « j'ai un rendez-vous au milieu de la matinée, mais je serai de retour dans l'après-midi, pas besoin de me remplacer très longtemps. » Je fais les examens et le médecin, avant de partir, me dit « il faudrait revenir demain pour faire encore une IRM ». De nouveau, un gros déni, j'ai dit « moi demain je fête Noël avec mes élèves, il est hors de question que je reprenne congé. Si vous me voulez pour l'IRM, il faudra attendre 14 heures que j'ai fini l'école. » Le docteur me prend la main et me dit « ne vous inquiétez pas, de toute façon ça ne sera pas votre dernier Noël ». Je suis sortie de l'hôpital en pleurs en fait, en appelant ma maman en disant « en fait je crois que c'est grave, mais on ne veut pas me dire ce que c'est, je dois retourner demain pour une IRM ». Le lendemain, je vais à l'école, je fête Noël avec mes élèves, j'arrive à la clinique avec ma maman qui voulait aussi venir, je fais mon IRM, on me donne le CD et on me dit « faut aller voir votre gynécologue, c'est lui qui va vous donner le diagnostic ». C'était vendredi 22 décembre, c'était 17h. Quand je suis ressortie, j'avais pas du tout envie de traverser Lausanne pour retrouver un autre médecin. Ma maman, elle avait compris, donc elle m'a dit « non, maintenant on y va, le médecin va t'annoncer les résultats, comme ça on sait ». On est arrivé chez le gynécologue, il m'a dit « voilà, c'est un cancer ». J'ai dit « ah, ok, donc c'est quoi ?» Il m'a dit « c'est un cancer ». Ok, et après j'ai posé plein de questions qui n'avaient pas vraiment de sens sur le moment, comme « pourquoi moi ?» je suis quelqu'un de gentil, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et cette discussion, je pourrais même pas la retranscrire parce que je me souviens de rien. C'était un brouillard de mots. Tout ce que j'ai retenu, c'est que c'était un cancer, que lui, il partait le lendemain en Martinique, qu'il allait me donner le nom pour voir un oncologue, et puis que j'allais avoir rendez-vous juste après les fêtes de Noël, le 28 décembre.
Le docteur Albéric Bressou, oncologue à la clinique Boissière.
La découverte, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose d'assez particulier, c'est qu'une jeune femme, si elle sent une masse dans le sein, va peut-être pas automatiquement penser que c'est quelque chose de cancéreux. Il peut éventuellement, de ce fait-là, avoir un certain retard diagnostique. Les personnels de santé qu'elle peut consulter peuvent aussi peut-être éventuellement banaliser parce que si vous êtes dans la vingtaine, on ne va pas automatiquement penser immédiatement cancer du sein. Bon, l'annonce du diagnostic est toujours quelque chose de difficile, au fond, quel que soit l'âge. Alors ça a un impact bien sûr beaucoup plus marqué chez une patiente jeune. Et puis le cancer du sein, ça, c'est quand même un organe particulier parce que ça renvoie à la féminité. Automatiquement, on va penser chirurgie, modification de la perception corporelle. Donc ça a un impact certainement un peu plus important sur ce plan-là. Mais l'annonce d'un diagnostic de cancer reste un moment émotionnellement marquant.
On a passé Noël un peu bancal parce qu'on avait un diagnostic, mais moi, je ne me sentais pas plus mal qu'il y a une semaine en arrière. Et donc, tout le temps, ma famille qui venait me demander « Est-ce que ça va ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Alors que pour moi, je ne me sentais pas encore malade. Alors, je ne me sentais pas malade, mais je me sentais vide. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Ce que je connaissais du cancer, c'était vraiment ce que j'avais vu dans des films ou des séries. J'avais jamais eu de proches qui ont été malades. Donc ça faisait pas du tout partie de mon quotidien, de mon entourage. Mais le sentiment dominant, ça devait être l'agacement que mes proches viennent tout le temps me solliciter, alors que je savais pas encore vraiment ce qui allait se passer.
Il faut un diagnostic précis, histologique, avec une biopsie de la masse dans le sein. C'est pas le cancer du sein, mais c'est les cancers du sein. Donc il faut savoir quel type de cancer on traite, quelle biologie on traite. Ensuite, surtout chez une patiente jeune, il faut faire un bilan d'extension pour savoir si la maladie est limitée au sein ou aux zones ganglionnaires proches, c'est-à-dire une maladie précoce. Ou si la maladie a malheureusement disséminé et a fait des métastases à distance, parce que la prise en charge peut être quand même un petit peu différente. Ensuite, la prise en charge va vraiment dépendre du stade de la maladie et de sa biologie. Et puis, il y a une histoire très très particulière chez la femme jeune, et qui est l'histoire de la fertilité. La chimiothérapie va pouvoir impliquer une diminution, une suppression de la fertilité, pas toujours, mais il y a ce risque-là. Donc c'est un effet secondaire potentiel de la chimiothérapie qu'il faut exprimer à la patiente, et dans certaines situations, si la patiente le désire, faire une préservation de la fertilité avec des récoltes d'ovocytes. Ça dépend du stade de la maladie, du désir de la patiente, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut discuter avec la patiente, et je pense dans une grande majorité de situations, il faut quand même envisager cette préservation de la fertilité.
Un premier rendez-vous avec l'oncologue, il m'explique que la tumeur dans le sein fait plus de 7 cm. Et donc, on va commencer par un traitement de chimiothérapie pour essayer de réduire la tumeur à un maximum possible. Et par la suite, l'opérer avec une tumorectomie en essayant d'éviter l'ablation complète du sein. En faisant les analyses complémentaires scanners, on a vu que mes poumons étaient aussi touchés avec des métastases. Donc la chimio pouvait aussi aider à les diminuer, voire un peu à les rendre invisibles. Et puis que cette maladie, elle était prise relativement tôt, mais elle était quand même assez agressive. Donc j'ai pas pu faire de préservation de la fertilité, parce qu'il fallait commencer tout de suite le traitement de chimiothérapie. Je me rappelle avoir dit au médecin que si je ne faisais pas de préservation de la fertilité, si on m'annonçait là maintenant que je ne pourrais jamais être maman, pour moi, c'était même pas la peine de me guérir parce que ma vie n'aurait plus aucun sens. Ça fait 7 ans maintenant, je peux toujours pas être maman, en tout cas pas avec la médecine actuelle, mais je suis quand même contente d'être toujours là.
Effectivement, on est dans une situation où là, il faut faire le deuil de beaucoup de choses. Et c'est extrêmement important chez une femme jeune, parce qu'au-delà de la fertilité des enfants, c'est aussi toute la vie affective qui peut être perturbée. Qu'est-ce que je vais devenir, quelle va être ma vie. Et c'est des moments qui sont quand même des moments charnières dans le développement psychologique et affectif de tout le monde, hein, la vingtaine. Et puis c'est vrai que la maladie a un impact qui est extraordinairement significatif.
Les toutes premières chimios ont été très difficiles. J'étais vraiment malade et très fatiguée. Et une chose qu'on n'avait pas du tout pris en compte, c'est les heures de sommeil. À la première chimio, j'ai dormi tellement longtemps que je m'étais complètement déshydratée. Et donc j'ai dû retourner à l'hôpital un peu en urgence pour qu'on me réhydrate parce que j'avais dormi 18 heures d'affilée et j'étais vraiment toute faible. J'ai perdu mes cheveux à la troisième chimio, donc c'était quand même assez, assez tôt. C'était douloureux physiquement, ça me faisait mal de les sentir tomber, comme si on tirait en permanence les cheveux. Et puis le moral aussi était dur parce que j'ai des longs cheveux bouclés, roux, que j'aime beaucoup. Et donc de les voir tomber, c'était compliqué. Mais en même temps, une fois que ça commence vraiment à tomber, qu'on commence à avoir des trous, des différences de volume, c'est pas joli. Il y a un ami coiffeur qui est venu à la maison, qui m'a rasé la tête à la cuisine. J'étais entourée de ma maman, de mes sœurs. C'était un moment très solennel. Ensuite, il m'a fallu quelques jours où je ne voulais pas du tout voir mon reflet dans le miroir. Je mettais le petit bonnet tout le temps. Et dès que j'ai eu passé ce cap-là, c'était vraiment derrière moi. J'ai eu une perruque que je mettais principalement à l'école pour les enfants. C'était quand même plus simple pour eux. Même s'ils savaient exactement que ce qui m'arrivait, que c'était des faux cheveux, que c'était une perruque, le regard était plus neutre. À la maison, plutôt le petit bonnet ou rien, ça dépend de la température. Et dès que je suis arrivée à l'été, j'ai plus rien porté. Il faisait trop chaud, en plus c'était avantageux de ne pas avoir de cheveux. Je fais les 5 semaines de radiothérapie. Et ça, c'était une des pires périodes pour moi, parce qu'il fallait aller à l'hôpital tous les jours pendant une vingtaine de minutes. C'était fatigant, c'était frustrant parce que j'étais en rentrée scolaire, donc j'avais pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Et quand la radiothérapie s'est terminée, que le scanner était bon et qu'on m'a dit c'est un début de rémission, on va faire les traitements hormonaux pour éviter que la maladie revienne. Donc des bonnes nouvelles en soi, c'est là où j'ai commencé à déprimer. Je ne savais plus qui j'étais, où j'en étais. Les rendez-vous à l'hôpital, ça se passait. Donc j'ai l'impression qu'on me lâchait la main et que j'étais complètement perdue. Et que sans l'hôpital, je ne savais plus qui j'étais. J'ai été suivie par un psychologue pour remonter la pente. Mais c'est vraiment quand tous les traitements lourds se sont arrêtés que pour moi, ça a commencé à être difficile de tenir le coup. Comme si pendant la chimio, pendant l'opération, j'avais comme des œillères et puis il fallait avancer parce qu'il n'y avait pas le choix. Les rendez-vous étaient fixés, il fallait y aller, il fallait le faire. Et une fois que tout ça s'était passé, j'étais perdue.
Alors c'est vrai qu'il y a un moment, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression, bon c'est vrai que quand on fait le diagnostic de cancer, c'est un moment extrêmement, assez dur, hein, parce que c'est vrai que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est un moment un peu surréaliste, ça renvoie à beaucoup de choses. Et puis, mais ensuite, vous êtes pris en charge. Ben voilà, il y a les thérapies, la stratégie thérapeutique qui a été décidée, traitement de chimio, hormonaux, chirurgie, etc., etc. Et puis, surtout ben, pour des maladies précoces, au bout de quelques mois de traitement, ben, le traitement s'arrête. Puis on dit à la patiente, bien voilà, prochain rendez-vous dans 3 mois. Et puis, sur une, au fond, sur une voie, hein, comme ça, où il y a des petites gares de façon extrêmement régulière, soudain, il y a 3 mois. Et c'est vrai que c'est un moment alors, où les patientes ont l'impression d'être un peu laissées à elles-mêmes, où il y a tout probablement qui revient, des notions, mais maintenant, les traitements sont finis, quel est le risque de récidive, quel est mon devenir, etc. Et puis, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les séquelles? Quel va être mon retour dans la vie professionnelle, etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est vrai que c'est un moment d'une certaine fragilité. Et il y a des femmes qui décrivent des périodes difficiles avec manifestement des périodes avec des traits dépressifs ou de franches dépressions. Et c'est un moment pour nous, au fond, thérapeutes, où il faut être très, très attentif à comment la patiente vit cette période-là.
C'est à ce moment-là que j'ai eu l'envie et le besoin de rejoindre des groupes de parole et de soutien, chose que je n'avais pas du tout voulu faire pendant mes traitements. Où j'étais vraiment focus, aller en traitement, aller à l'école, dormir. C'était mes trois piliers. J'ai été chez Osthérapie. Ça venait de se créer, en fait, avec des tout premiers ateliers. J'ai aussi participé avec ma maman à AVAC, Apprendre à vivre avec le cancer. Et là, j'ai rencontré des personnes qui vivaient des situations plus ou moins similaires, avec des différences de type de cancer, d'âge, de chemin de vie. Et donc, ça m'a appris à faire un peu la paix avec ce qui m'était arrivé. Et puis que c'était une étape qui était finie en termes de chimio, de traitement lourd, mais le cancer ferait toujours partie de moi. Et donc, que j'allais continuer à vivre avec. Et ça m'a apaisée de savoir que... Maintenant que je l'avais vécu, que je le vivrais probablement, d'ailleurs je le vis encore actuellement, de savoir que c'était pas juste une période et puis que c'était quelque chose de plus qui faisait partie de qui j'étais. Moi je m'étais imaginé plein de choses, enseigner, rencontrer quelqu'un, me marier, être maman, avoir un chat... J'ai le chat, mais j'ai aussi rencontré quelqu'un, mais ça n'était pas... Je pensais dans les projets de personne de tomber malade, mais c'était pas du tout dans les miens. D'ailleurs, pendant les traitements, j'ai pas arrêté de travailler. J'allais à la chimio le lundi, mardi matin, j'étais en classe. Comme si c'était une sorte de combat avec moi-même. Et puis finalement, bah, ça s'est intégré, que ça fait partie de moi. Et je peux pas aller à l'encontre de ça. Et ouais... Ça fait partie de moi maintenant, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
En rémission, progressivement, Danae reprend une vie presque normale.
Une période de répit d'un peu plus d'un an et demi. Ensuite, des problèmes au niveau respiratoire. Et beaucoup de toux, un peu d'asthme, des étourdissements. Moi, j'étais sûre que c'était de nouveau la maladie, donc j'ai mis du temps à rappeler le médecin. Et suite à un scanner, on a vu que les métastases avaient recommencé à grossir. Donc rien de nouveau dans le sein, mais les poumons qui se développaient. Dans ma tête, j'avais tout fait comme il fallait. J'allais aux rendez-vous médicaux, je faisais les examens qu'il fallait, je prenais les médicaments comme il fallait. Et donc pour moi, c'était pas logique, injuste que ça revienne avant les 5 ans de traitements hormonaux obligatoires.
Si on prend le cancer du sein, même une maladie précoce, vous faites les traitements, il y a un risque de récidive qui est là, qui va être plus ou moins marqué suivant la biologie de la tumeur. Donc il faut bien exprimer à la patiente pourquoi on continue un suivi, bien exprimer le risque qui peut être parfois fait, parfois un peu plus marqué, et puis pourquoi on fait un suivi. Donc la récidive, elle peut être locale. La récidive locale, maintenant, avec une chirurgie bien faite, la radiothérapie, ce n'est pas un gros problème. Et c'est vrai que pour certaines biologies, surtout chez la femme jeune, on va être très attentif à la récidive à distance, la récidive métastatique, qui a un impact, bien sûr, beaucoup plus important, notamment sur le plan pronostique, et puis qui va nécessiter la reprise de traitement quand même relativement significatif.
Nouveau traitement très difficile. J'étais tellement en colère à l'idée de recommencer que je me suis rendue malade toute seule. Je vomissais énormément, je mangeais plus, je faisais que de pleurer. J'acceptais vraiment pas cette récidive. Il y a même eu un moment où je voulais plus me soigner. Donc j'avais dit à mon oncologue, j'arrête les traitements, j'en ai marre. J'en peux plus, je suis fatiguée, je suis tout le temps malade, je suis à bout de force et je sais même plus pourquoi je me bats. J'ai fait plusieurs mois sans traitement avec un conjoint qui comprenait pas pourquoi je voulais pas me soigner, avec mes parents, mes sœurs qui comprenaient pas pourquoi je voulais pas me soigner quand j'avais déjà réussi une première fois. Et une discussion un peu coup de poing avec mon oncologue qui m'expliquait que si je reprenais pas le traitement, peut-être que je me sentirais mieux pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, mais que la maladie allait prendre le dessus et que j'allais recommencer à être malade et qui garantissait pas que l'année suivante je sois toujours là. On est de nouveau en période de Noël, donc c'est la période sensible pour moi. Et de me dire, oh là là, c'est peut-être mon dernier Noël. Ça m'a mis une grosse claque et là j'ai accepté de reprendre les traitements.
Il peut y avoir des refus des traitements, mais je dois dire, je l'ai rarement vu chez les gens jeunes. Par contre, la reprise d'un traitement et puis la lourdeur de ce traitement, les effets secondaires de ce traitement, ça, c'est pas toujours simple à accepter. Et puis, c'est vrai que ça peut entraîner au bout d'un certain moment un ras-le-bol. En se disant, mais est-ce que je veux vraiment continuer ce traitement avec les effets secondaires, etc. Donc, c'est vraiment pas toujours tout simple, effectivement, mais un refus d'emblée chez la patiente jeune, c'est quand même assez rare.
Je les ai repris pendant presque une année. Et puis en novembre 2022, une douleur dans l'épaule, des nouveaux examens, les métastases qui avaient recommencé à grossir dans les poumons et une nouvelle tumeur dans l'épaule. Nouveau coup de massue. Mais plus facile à accepter parce qu'il y avait quelque chose de concret dans le sens où il y avait une nouvelle tumeur. Donc la chimio allait de nouveau la diminuer avec des rendez-vous qui étaient un peu plus connus. Donc j'ai dû retourner en oncologie ambulatoire. On m'a remis un porte-à-quatre avec un schéma que je connaissais déjà mieux et que j'acceptais plus. Oui, les métastases au poumon, c'est difficile à sentir. On les voit pas, on les sent pas. Pas de difficulté plus que ça. Par contre, une tumeur, c'était concret et en plus, elle me faisait mal, elle comprimait tous mes nerfs, donc j'avais mal dans le bras, dans la nuque, dans le dos. Donc, faire de la chimio, allait me rapporter un certain bien-être. Tout s'est pas passé comme on l'avait imaginé. La tumeur a sécrété du liquide vers la plèvre, ce qui a commencé à remplir mes poumons de liquide. Et au mois de mars 2023, j'ai été hospitalisée. Parce que j'avais presque plus de capacité pulmonaire. Donc, on m'a enlevé presque 3-4 litres de liquide qu'il y avait dans mes poumons. Et ensuite, ça a été des semaines et des semaines de physio respiratoire pour essayer de regonfler ces poumons qui commençaient à se nécroser.
Bon, on a parlé de la maladie précoce où on fait des traitements, puis ensuite on espère que la patiente est guérie. Puis il y a la maladie avancée avec des métastases. Et puis c'est vrai que maintenant on a fait d'énormes progrès. C'est-à-dire que l'espérance de vie de ce type de personnes, de patientes, c'est quand même considérablement amélioré, mais ça nécessite des traitements de longue durée qui sont chroniques. Au fond, c'est vrai qu'on dit parfois que on ne guérit pas la maladie métastatique, mais on la rend un peu chronique. Mais ça implique aussi des traitements chroniques avec la lourdeur de ce type de traitement. La maladie avancée, c'est un malade à vie, mais comme le diabète peut être une maladie à vie, comme pas mal de maladies inflammatoires peuvent être des maladies à vie, on ne va pas automatiquement guérir d'une polyarthrite rhumatoïde, d'une maladie inflammatoire de l'intestin, de certaines maladies neurologiques. Donc on côtoie dans la rue, finalement, maintenant, beaucoup de gens avec des maladies chroniques. Et puis, vous êtes à la gare de Lausanne, vous traversez la gare aux heures de pointe, eh bien, vous allez certainement rencontrer, croiser sans le savoir, des gens atteints de cancer avancé, qui ont des traitements, qui arrivent à vivre et qui vivent relativement bien.
Et dans ce parcours qui ressemble parfois à celui d'une combattante, Danae a trouvé un soutien en la personne de son oncologue.
Mon oncologue, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je respecte beaucoup. Il y a un lien qui s'est vite créé entre lui et moi parce qu'il a une fille qui a une semaine d'écart avec moi. Donc il a même souvent dit à ma maman qu'il s'était déjà imaginé à notre place avec sa fille. Il respecte mes crises de nerfs. Il accède à plusieurs de mes demandes. Voilà, quand j'ai besoin d'une ordonnance, quand j'ai besoin d'aller faire voir un spécialiste... pour des médecines alternatives, il est toujours ouvert. Il a aussi pris un peu ce rôle de médecin généraliste. Donc c'est vraiment lui qui gère toute ma vie au niveau de la santé. Ça fait 7 ans maintenant hein, qu'on collabore plus ou moins ensemble. Donc oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi.
Finalement, vous vous connaissez, les consultations, ben, vous parlez un petit peu de la maladie, mais vous parlez d'autres choses. Finalement, vous les connaissez, ils apprennent aussi à vous connaître. Donc, vous tissez des liens qui peuvent être des liens qui se rapprochent de l'amitié. Donc, c'est des choses qui sont quand même très significatives pour nous, médecins, mais aussi pour toutes les équipes soignantes. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, parce que ça fait également beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, on est content, mais quand les choses vont un peu moins bien, on est aussi très, 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 très frappé hein, par ce qui peut arriver. Donc l'oncologie, c'est une branche quand même assez particulière où l'émotion est quand même assez souvent là. Il faut garder une certaine distance, mais c'est vrai que si vous accompagnez quelqu'un sur des années, si vous accompagnez quelqu'un en plus de jeunes sur des années, c'est vrai que ce n'est pas banal. On ne se rend pas compte, nous, parfois, comme thérapeute, mais finalement, on fait partie un peu de l'entourage, on devient un peu des membres de la famille. On n'oublie pas les gens qu'on a côtoyés.
Pendant sa première période de rémission, Danae a rencontré son compagnon.
Je pense que ce qui a aidé notre lien amoureux, c'est qu'on s'est rencontrés juste avant le Covid et qu'on a emménagé ensemble à l'annonce du confinement. Alors que ça faisait un mois qu'on se connaissait. Donc on a été fait au feu de ce point de vue-là. Moi, je lui ai tout de suite parlé de la maladie quand on s'est rencontrés, que j'avais été malade, que je le serais probablement encore, comme mon cancer est hormonodépendant et chronique. Donc il y aurait forcément des moments plus difficiles que d'autres. Lui, les personnes qu'il connaissait qui avaient été malades, c'était ses grands-parents qui l'a perdu à cause de la maladie. Donc il a vu en moi une personne très forte qui avait survécu, chose qui était nouvelle pour lui. Ensuite, il s'est beaucoup renseigné, il a lu des articles, il a regardé des vidéos, il voulait savoir de quoi on parlait. Quand il venait aux rendez-vous médicaux avec moi, il avait toujours sa liste de questions, des recherches qu'il avait faites de son côté. Donc ça faisait plaisir de voir l'investissement qu'il mettait pour la maladie. Et puis, une des forces de notre couple, c'est qu'on discute énormément, même quand c'était des bonnes périodes de rémission. On a toujours eu beaucoup de dialogues. Et donc, quand la maladie vient plus ou moins forte, et surtout en ce moment, on parle et puis il est vraiment à l'écoute de mes besoins, de mes envies, de mes moments de calme et de repos.
Je pense que l'entourage familial, amical, affectif joue un rôle capital dans la prise en charge thérapeutique. Et je suis persuadé que si vous avez un bon entourage familial, vous allez mieux vivre votre maladie. Et il n'est pas impossible que ça puisse même avoir un impact sur l'espérance de vie, même si c'est difficilement analysable et quantifiable. Alors, je pense que chaque couple peut vivre ça de façon un peu différente, mais c'est clair que la maladie devient quelque chose qui joue un rôle extrêmement important, qui fait partie de soi-même pour le patient, et qui est une entité en soi, qui vous appartient. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier justement l'entourage, notamment le conjoint, parce que le conjoint, la maladie, elle lui est imposée, hein, quelque part. Et puis, ce n'est pas toujours simple d'arriver à dealer avec, effectivement, on pourrait dire, cette troisième personne, cet objet qui traîne là dans l'intimité, hein, quand même, et qui a un impact relativement important. Et il faut jamais oublier au fond, l'émotion, la peine, l'affect des personnes qui entourent, et en particulier des conjoints. On oublie un peu parfois hein, qu'ils sont là et qu'ils souffrent de façon différente, mais surtout, ils n'ont pas prise. Une patiente, elle va finalement devoir faire avec sa maladie qui devient partie d'elle-même. Le conjoint, on lui impose quelque chose. Dont il n'arrive pas tout à fait à pouvoir manœuvrer cet objet, cet être, cette histoire de la même façon que la personne qui est malade. Hein.
On fait ménage à trois, ménage à quatre avec le chat. C'est vraiment un ménage à trois parce que mon humeur ou mon corps peut changer du tout, tout, tout. Je peux me sentir très bien, on peut regarder la télé et tout d'un coup. Comme une vague, et puis être complètement HS, fatiguée, avoir des douleurs. On peut sortir, se balader, tout se passe bien, et puis à un moment, rien ne va plus. On peut manger, et au milieu du repas, je ne digère plus rien, et donc je dois partir à la salle de bain. C'est comme si on était toujours sur le qui-vive. De ne pas savoir ce qui peut se passer dans une demi-heure, mais en même temps essayer de profiter de chaque moment où ça va bien.
Il faut que la maladie ait, si possible, le moins d'impact possible sur cette vie affective et intime. Pas toujours simple. En plus, nos traitements ont probablement des impacts relativement importants parfois sur la libido. Donc, il faut se rendre compte que cela peut apparaître, les traitements hormonaux en particulier. Donc voilà, c'est pas tout simple. Il faut parfois réinventer une sexualité peut-être un petit peu différente. Et c'est, je pense, relativement important pour effectivement le partenaire de se rendre compte que c'est une vie un peu différente.
J'essaie de vivre au jour le jour hein, parce que on m'a dit plusieurs fois que le cancer était chronique, qu'il allait probablement revenir et que même si un médecin me dit que ça peut revenir tous les 10 ans, dans la mesure où j'en ai 30 maintenant, ben, entre 30 et 90 ans, il pourrait revenir 6 fois. Donc, c'est des calculs que j'accepte pas spécialement. Moi, au fond de moi, je pense que la maladie, elle va être un peu cyclique et puis revenir. Mon conjoint, lui, il croit en l'évolution de la médecine et puis qu'à un moment, on sera vraiment sorti de tout ça. C'est des questionnements qui me prennent de temps en temps et puis qui me mettent un peu le cafard et puis le moral en bas. Mais sinon, c'est quand même des choses, j'essaye de pas trop y penser.
Je pense qu'il est parfois assez difficile chez les patients très jeunes de parler de la mort. Bien, on peut même se référer à notre propre expérience. Quand on est adolescent ou jeune adulte, la mort est quelque chose d'assez lointain, qui ne nous touche pas. Elle peut nous toucher parce que soudain, il y a un membre de la famille qui décède, et encore, c'est quelqu'un d'âgé, etc. Et pour la personne jeune atteinte d'une maladie qui peut être existentielle, et parfois pas toujours facile d'exprimer ses craintes face à la mort, de parler de la finitude de la vie. Alors ça, c'est peut-être une caractéristique un petit peu de la personne jeune. Mais je crois que ce qui est important, c'est de dire que les progrès médicaux font qu'on peut vivre avec un cancer avancé durant des périodes très longues, avec une qualité de vie qui est tout à fait correcte. Et puis, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui est apparu ces dernières années en oncologie.
Ce qui casse vraiment mon moral, c'est tout ce qui va toucher à l'estomac. C'est quand j'ai les nausées, quand j'ai des périodes de vomissement. C'est les moments où je suis le plus pénible à la maison. Parce que on n'est jamais bien. Quand on a mal au ventre, on n'est jamais bien. Il n'y a pas de position, on a faim, mais on n'a pas faim. C'est vraiment une sorte de tourbillon très désagréable. Et ce qui est pesant aussi, c'est la fatigue. Cette fatigue chronique et d'avoir des fois la sensation de jamais vraiment récupérer et d'être mitigé entre se reposer et faire des activités. Parce que finalement, même quand on se repose, on n'est pas reposé. Et puis, je me dis que si je fais des activités, que je me bouge, au moins c'est de la bonne fatigue que j'ai et pas cette fatigue morale ou cette fatigue réelle, mais qui est vraiment due au traitement. Ce qui est plus dur pour moi et pour nous, c'est tout ce qui va toucher au fait d'être parent. C'est ça qui me pèse le plus. Le discours de l'oncologue actuellement, c'est pas d'enfant possible, pas de grossesse, parce que comme le cancer est lié aux hormones, ben, la grossesse, il y en a beaucoup, des changements hormonaux. Il nous avait dit hein, que si on tentait une grossesse, ben, mon conjoint il risquait de se retrouver père célibataire, pour autant que j'arrive au terme. L'adoption risque d'être très compliquée aussi parce que ben, je ne suis pas en bonne santé. Donc pour une agence d'adoption, je ne suis pas forcément éligible. Et puis, en dehors de ça, on ne sait même pas si je peux avoir des enfants d'un point de vue mécanique, comme on n'a pas fait de préservation de la fertilité. Ça fait 7 ans que je suis en ménopause artificielle. J'ai aucune idée de ce qui pourrait encore fonctionner chez moi. Et je suis dans une tranche d'âge, hein. J'ai plein d'amis qui tombent enceintes. Pour moi, leur grossesse est très difficile à vivre. Mais quand leurs petits bouchons sont là, c'est tellement de bonheur de voir un petit bébé que pour moi, c'est plus facile à gérer. Les élèves, ça m'aide. J'en ai 20, du coup, tous les jours des enfants que je peux rendre quand je suis fatiguée à 3h30. Et ça aide beaucoup. Et j'ai une de mes meilleures amies qui est enceinte, qui m'a demandé d'être la marraine. Alors, je pense que ce sera un nouveau chapitre et puis ça me touche beaucoup qu'elle m'ait demandé. Et j'espère vraiment pouvoir avoir un joli lien avec Mo ou ma filleule.
Aujourd'hui, Danae est toujours en traitement, mais elle continue à enseigner à temps partiel.
J'ai quand même réussi à trouver une certaine harmonie avec un temps de travail diminué. Donc, je travaille un jour complet et puis 2 après-midi par semaine. Parce qu'avec les enfants, c'est beaucoup d'énergie qu'il faut leur donner. Et puis ce temps de travail, il me permet, quand je rentre à la maison, de pouvoir aussi profiter de faire d'autres activités pour moi. J'adore les activités créatrices, j'aime beaucoup lire, j'aime écrire. J'aime aussi passer des temps calmes. Et donc là, j'ai trouvé un petit rythme de croisière, même si il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres.
Si le travail est perçu comme quelque chose de très positif et quelque chose de très bénéfique, il faut faire le maximum pour que la personne, le patient, puisse continuer à avoir une activité professionnelle, même à temps partiel, parce qu'effectivement, voilà, on est dans une vie avec une certaine normalité, on maintient des contacts professionnels. Et puis, suivant les métiers, je pense que ça peut même être très enrichissant pour l'entourage professionnel. Parce que là, finalement, la maladie, ça amène aussi une certaine richesse. Donc, on a tendance trop dans nos sociétés à voir uniquement la performance. Et au-delà de la performance, il y a la richesse de la personne. Et je pense que la maladie fait que les gens se transforment. Et cette transformation, la plupart du temps, elle est quand même perçue et décrite par les malades comme quelque chose de positif. Donc, c'est une richesse que je pense que la société devrait prendre aussi en considération en acceptant que les gens reviennent travailler, en leur aménagement de temps de travail, etc.
La maladie, elle est stable. Ça fait un peu plus d'un an que je suis en traitement de chimio. L'oncologue m'a annoncé mardi qu'on pouvait les espacer à toutes les 4 semaines pour laisser un petit peu plus de répit. Mais en tout cas, au niveau des marqueurs sanguins, la maladie régresse. Je pense que je suis d'une nature optimiste. Et je pense aussi que j'ai la force de caractère ou la force que j'ai pu démontrer pendant la maladie, je l'ai toujours eue. Juste que jusqu'à présent, je n'avais pas eu besoin. Donc, je ne m'étais pas forcément rendu compte de la superwoman que j'étais. Et je pense que tout le monde a ça en soi. Je pense qu'il ne faut pas rester seul. Ça peut être un membre de la famille, un ami, un membre du personnel hospitalier. Mais en tout cas, pas se recroqueviller sur soi-même. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Parce que finalement, on se connaît mieux qu'on ne le pense. Et comme je l'ai dit avant, je pense qu'on a tous une certaine force en soi. Et puis que quand il y a un coup dur, c'est là qu'elle ressort. Et puis c'est ce qui nous permet de tenir. J'encourage aussi à prendre contact avec l'assistante sociale. C'est quelque chose que j'avais pas fait à mon premier cancer. On n'en m'avait pas parlé. J'avais pas forcément pensé non plus. Et là, sur cette troisième récidive, avec mon taux de travail qui a été diminué sur du long terme, j'ai commencé à avoir des petits soucis avec les ressources humaines et puis les jours de droit au salaire. Et puis toutes les démarches pour avoir de l'aide avec l'AI, avec des éventuels subsides, sont très compliquées. Elles sont pas faites pour les gens, pour que les gens puissent les comprendre. Et donc d'avoir de l'aide à ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment super important.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses.
Vous trouverez des ressources en lien avec le cancer précoce dans le descriptif de cet épisode.
Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.